Faoui. Mohamed, qui est journaliste d'investigation, écrivain, réalisateur, je m'excuse auprès de lui par avance parce que je ne dirai certainement pas tout dans ce qui le concerne. C'est impossible. Je vais en sauter. Mais il connaît bien la stratégie islamiste pour l'avoir subie en Algérie avant de devoir fuir alors que plusieurs de ses collègues avaient été assassinés. Il est l'un des spécialistes de l'islamisme en France. Il préside l'association 11 janvier. Il a un blog et collabore au site Ikhwan Info, l'observatoire politique de l'islamisme et des frères musulmans. Il a écrit plusieurs essais ou enquêtes sur l'islamisme, entre autres « Combattre le terrorisme islamiste » paru chez Grasset en 2007 et « Pourquoi l'islamisme séduit-il » chez Armand Collin en 2010. Il a également collaboré ou dirigé de nombreux reportages ou documentaires TV sur ce sujet. Donc, je vous passe la parole.
Merci beaucoup. Alors, j'ai combien de temps à peu près pour ne pas...
30 secondes. Une douzaine de minutes.
Une dizaine de minutes. Une douzaine. Douzaine. D'accord. Bon. Non, parce que c'est pas juste le fait que je sois bavard. C'est le sujet exige que l'on soit bavard. Tant il est complexe et le piège à éviter, c'est d'essayer de l'approcher avec une certaine caricature comme le font certains, de plus en plus, y compris l'élite politique ou l'élite médiatique. C'est-à-dire, l'islam politique est une véritable est un phénomène, est un sujet, est un véritable poison. C'est une idéologie totalitaire. Et l'une des premières choses que je remarque depuis plusieurs années, c'est le cas en France, mais pas seulement en France, et c'est la raison pour laquelle, en vérité, nous sommes aujourd'hui à ce niveau-là, si je devais compléter ce qui s'est dit lors du premier panel, je suis arrivé un petit peu à la fin, mais la substance, en tout cas, c'est de répéter finalement les constats qu'on entend depuis plusieurs années, hein. Donc, je suis content d'être là, évidemment, et de vous retrouver, mais il faut qu'au-delà du groupe de parole que nous constituons pour évacuer un petit peu nos névroses et nos inquiétudes, somme toute légitimes par rapport à ce sujet, il faudrait qu'on se mette d'accord, une fois pour toutes, qu'il y ait un consensus, c'est-à-dire au-delà du cadre associatif, dans la société, sur quel diagnostic faut-il faire, et surtout, que faut-il faire face au diagnostic qui est établi. Donc là, nous sommes encore loin du compte, parce que moi, depuis que je participe au débat public en France, j'ai l'impression véritablement de tourner en rond. C'est-à-dire qu'on me répète toujours que l'eau mouille, que le feu brûle et que les méchants ne sont pas gentils. Donc bah, très bien, à un moment donné, une fois que le diagnostic est fait, il faut sortir de ça pour arriver à quelque chose de beaucoup plus élaboré. Le premier problème que je voulais aborder, c'était en vérité une chose qu'il faut rappeler, qu'il faut méditer, c'est que le sujet de l'islam politique en France n'a jamais été pris au sérieux. C'est un sujet qui a été méprisé. Et on le voit aujourd'hui encore, n'importe qui peut s'exprimer sur le sujet n'importe comment. Autant, par exemple, sur d'autres totalitarismes. Le fascisme italien, le nazisme, etc., on va interpeller des sommités mondiales pour vous expliquer les choses. Autant aujourd'hui, on va penser que n'importe qui est légitime, c'est-à-dire par le truchement d'un parcours somme toute empirique, sans aucune validation scientifique, on va, par exemple, décider que celui qui fut, il y a quelques années encore, le mentor des frères Kouachi, qui ont assassiné nos amis à Charlie Hebdo, peut, lui, devenir un excellent thérapeute. Voilà, d'autorité, sans que cela ne puisse, heurter personne. Donc, je voulais quand même, en préambule, c'est pour ça que je dis attention, parfois je risque d'être un petit peu long, parce que c'est des sujets qui sont importants à mes yeux. On ne peut pas répéter, encore une fois, que des choses que l'on connaît. Le deuxième point, c'est sur, évidemment... On va vivre une année importante en France, cruciale, l'une des années les plus importantes probablement, parce qu'on a un double enjeu. C'est effectivement lutter contre l'islam politique qui est un totalitarisme, mais comme je pense et je suis profondément convaincu que je suis ici face à de vrais républicains, c'est de lutter aussi contre le fait que l'extrême droite dans ce pays prenne le pouvoir. C'est c'est un élément central, d'autant plus que ce qui est, contrairement à certaines vues de l'esprit et à certains experts autoproclamés, notamment d'extrême droite et des populistes, l'ambition de l'islamisme, ce n'est pas de prendre le pouvoir en France. Ça, c'est ceux qui vous racontent n'importe quoi pour essayer de vous entraîner vers une aventure. L'objectif de l'islam politique, c'est de fracturer la société française. Et les islamistes n'ont absolument pas, techniquement parlant, la possibilité de prendre le pouvoir. Ils n'ont pas la possibilité de prendre le pouvoir, même si, dans l'esprit de certains, je le sais, nous sommes essentialisés, il y a un relativisme culturel, et que, de toute manière, dans chaque musulman, il y a un islamiste qui se cache probablement, selon certains. Et on le voit dans les commentaires, très souvent, pour peu que certains commentaires ne cadrent pas parfaitement avec une ligne bien particulière. Donc, vous savez, c'est un peu la logique qui a tant séduit, même si je suis partisan de la liberté d'expression, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la logique welbeckienne. Un jour ou l'autre, peut-être ces gens-là prendront le pouvoir. Non, c'est une vue de l'esprit. Le plus important, et je dirais le véritable défi, c'est que dans ce pays, l'extrême droite prenne le pouvoir en utilisant des faits objectifs et une maladie réelle qui est celle de l'islam politique et son existence et les fractures qu'elle est en train de provoquer à travers les crimes et les angoisses, somme toute légitimes, qu'elle crée dans la société. Est-ce que nous sommes capables d'être matures, suffisamment républicains, suffisamment responsables pour déjouer ce piège? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, évidemment, pour répondre à la question qui m'est posée, c'est le témoignage que je vais vous apporter est un témoignage qui n'est pas strictement franco-français. C'est-à-dire que, voilà, le hasard veut que mon modeste parcours, effectivement, j'ai eu un aperçu, une expérience en Algérie pendant la guerre civile. Certains ont cru que lorsque j'ai commencé à m'exprimer en France, j'étais nourri par une espèce de pathologie traumatique qui m'amenait à voir de l'islamiste partout. Parce qu'évidemment, un arabe ne peut pas être rationnel, il ne peut pas être un esprit doté d'une connaissance et d'une science, il ne peut être qu'un impulsif. Qu'il soit un homme ou que cette personne soit une femme aussi. Je veux dire, dans les deux cas, on est de manière des réactifs. On n'est que des impulsifs qui ne peuvent pas réagir avec la raison, mais que par leur seule passion. Donc, évidemment, et j'ai entendu ça dans le précédent panel, que ces personnes soient des démocrates, des laïcs, des féministes issus d'Iran, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, etc., nous avons tous été soupçonnables, je dirais, d'illégitimité presque physiologique à nous exprimer sur le sujet et alerter sur la réalité du problème parce que nous avons vu simplement des ingrédients qui étaient en train de s'amasser dans cette société pour aboutir finalement à ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous avons vu encore une fois il y a cela 2 ans à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher, le 13 novembre, ainsi de suite. Nice, évidemment, et tous ces attentats. Donc, la question, je dirais, de l'atteinte à la liberté d'expression est une question centrale. Et le hasard veut que, effectivement, mon expérience algérienne, vous savez, la guerre civile, comme on l'appelle communément en Algérie, a commencé en janvier 92. On a commencé à assassiner les journalistes, les intellectuels, en mai 1993, par l'assassinat de Tahar Jaout, l'écrivain et poète, qui, une semaine avant sa mort, écrivait ce poème prémonitoire, « Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. » Une semaine après, il a parlé, il a été tué. Donc, ça, c'est un deuxième élément. C'est-à-dire que le début d'une situation de trouble, et c'est un euphémisme, de guerre civile, a immédiatement impliqué les journalistes et les intellectuels, les mettant non plus dans le statut, je dirais, d'observateur seulement, enfin, qui est leur métier, je veux dire, on observe notre époque, et on est nous sommes normalement les historiens de notre époque, de l'actualité, pour les sortir de ce statut-là et en faire des acteurs. Des acteurs parce qu'il était important de cliver ainsi la société et de faire en sorte à ce que tous ceux qui ne suivent pas, pas ceux qui les critiquent, tous ceux qui ne suivent pas leurs dogmes étaient forcément désignés comme des ennemis et, a fortiori, les journalistes intellectuels francophones, francophiles, ceux qui s'exprimaient dans la langue française, et donc qui, à travers la langue française, charriait toutes les valeurs universelles dont, pour lesquelles les mouvements islamistes ont une profonde détestation. Mais ensuite, mon parcours, parce que comme je suis un peu boulimique de travail, j'ai eu effectivement à travailler En Suisse, lorsque j'ai enquêté en 2004 sur le fameux et le fumeux Tariq Ramadan. Et là aussi, j'ai vu comment on a, alors que le film n'était vu par personne, qui devait passer sur France 2, des communiqués sur communiqués demandant à France Télévisions d'annuler la diffusion d'un reportage, d'une enquête qui n'a été regardée par personne en 2004, avant même diffusion, expliquant que Mohamed Sifaoui était connu pour être hostile au symbole de la religion musulmane. C'est-à-dire que l'OIF, qui demandait, qui produisait ce communiqué à l'époque, était déjà dans une logique où on me désignait comme étant hostile au symbole de la religion musulmane, comme s'il fallait considérer Tariq Ramadan comme un symbole de la religion musulmane. Après, pas d'amalgame, ils vous diront. Bon, alors qu'en vérité, je m'intéressais, comme on peut le faire pour n'importe quel personnage public, parce que, rappelons-le quand même, un personnage public est soumis, et j'en connais quelque chose à la critique, y compris excessive, y compris injuste, y compris diffamatoire, etc. Donc je n'ai jamais pour autant demandé la censure, y compris des pires saloperies qu'on a pu écrire sur moi. Et je veux dire, je n'ai commencé à poursuivre des personnes qu'en 2015. Je n'ai commencé à poursuivre avec toutes les saloperies qu'on a écrites sur moi. Je, personnellement, par principe, je n'ai commencé véritablement à poursuivre que des choses qui devenaient vraiment insupportables et qui relevaient non seulement du diffamatoire, mais aussi de la menace, etc. Mais j'ai eu ensuite, en 2006, la possibilité de vivre une expérience similaire lorsque j'ai réalisé une enquête pour Radio-Canada. Alors, les Canadiens sont spéciaux. Leur télé, ils l'appellent la radio. Ça, c'était Radio-Canada, donc la télévision québécoise, pour l'émission Zone Libre, quand un confrère, Jean-François Lépine, m'avait appelé pour me demander d'aller au Québec faire une enquête sur la présence du mouvement islamiste au Québec et donc le danger potentiel. Et là aussi, tollé général au Québec, comment pouvait-on laisser cet affreux... évidemment, cet affreux personnage, etc., réaliser une enquête pour une chaîne aussi prestigieuse que Radio-Canada. Et évidemment, Viviane en peut en témoigner, puisque mes séjours en Belgique sont fréquents, et j'ai eu l'occasion de prendre plusieurs positions et de participer à plusieurs débats, et là aussi les tentatives de censure, etc. Donc ce n'est pas, je le dis, spécifique à la France. Bon. Alors, comme il reste 1 minute 30, je vais maintenant vous parler du sujet. Alors très vite, moi j'ai été impliqué évidemment dans le procès de Charlie Hebdo, certains peut-être s'en souviennent, ou ceux qui ne le savaient pas, ben, je leur dis, j'ai été très vite. Alors pourquoi j'ai été très vite impliqué dans le sujet? J'ai eu une information dès le début de cette affaire, c'était quand des hystériques, tout croc dehors, commençaient à brûler des drapeaux, un peu partout, dans des capitales d'ailleurs où les manifestations sont généralement prohibées, quand on sait que quelques années plus tard, Bachar el-Assad, par exemple, juste parce que les gens chantaient et dansaient dans la rue réclamant plus de démocratie, leur a tiré dessus. Ce jour-là, l'ambassade du Danemark a été brûlée sans que personne ne puisse, enfin, sans qu'aucune autorité ne puisse arrêter ces gens-là. Donc, en fait, même les dictatures ont instrumentalisé l'affaire des caricatures. Et ils n'ont pas été les seuls, évidemment. Ça a commencé par un groupuscule de petits imams danois que personne ne connaissait et qui voulaient régler leur compte avec à la fois ce petit pays, fort sympathique par ailleurs, qui accueille des musulmans vivant sous dictature, mais également y compris des islamistes vivant sous dictature. Parce que c'est là aussi ces pays qu'on qualifie aujourd'hui de tous les noms, et les pays scandinaves en fait partie. La Suède, par exemple, avait accueilli des membres du Front islamique du salut algérien, y compris des gens du GIA. Donc ces pays, grands pays islamophobes, hein, la Grande-Bretagne, grand pays islamophobe, s'il en était, hein, pour reprendre l'expression consacrée, bien sûr, quand vous entendez islamophobe, vous voyez toujours de guillemets. Hein. Et je vous dirais, si on devrait, l'une des résolutions à prendre pour l'année 2017, c'est ne plus utiliser ce mot. C'est le bannir de notre lexique parce que c'est le lexique de l'ennemi. Voilà, c'est dit, carré, franc. Et vraiment, pour ceux qui adhèrent, moi, je souhaiterais qu'on le bannisse et que lorsqu'on l'utilise à l'écrit, qu'on l'utilise avec de gros guillemets. Donc toutes ces démocraties, en fait, par naïveté, nourries par leur... ont accueilli, y compris des islamistes. Et ces islamistes danois, ont voulu instrumentaliser l'affaire. C'est très difficile, j'ai écrit un livre, j'ai réalisé là aussi une enquête qui est passée à la télé, qui a, en fait, de bout en bout, manipulé cette histoire. Ils sont arrivés jusqu'à, et ça, à l'époque, le dossier, je l'avais montré, a constitué un dossier de 42 pages, dans lequel il y avait effectivement les caricatures, les fameuses 12 caricatures, mais ils avaient, malicieux comme ils sont, glissé au milieu trois dessins puisés sur Internet, dont personne ne connaît la provenance. Un dessin montrant, c'est un photomontage plus précisément, montrant un fidèle musulman en train de prier tout en se faisant sodomiser par un chien. Bon. Une photo d'un concours, il y a des gens qui ont des idées formidables, un concours de cri de cochon, quelque part dans le sud de la France, qui se tient chaque année. Bon, ils ont le droit. Et donc, la personne grimée en cochon faisant ce geste-là pour crier. Et là, c'était l'appel de la prière des musulmans. Et le troisième, je l'ai oublié, mais c'était tout aussi outrancier, dégueulasse, raciste, etc. Et ça a été glissé, mais alors ça n'avait absolument rien à voir avec les dessins de Yolande Poston. Qui soit dit en passant, autre propagande, a été présenté comme un journal raciste, un peu comme s'il s'agissait de Minutes en France. Alors qu'en réalité, c'est... Il est même un peu plus à gauche que le Figaro. C'est même pas... C'est un journal de droite qui est un peu plus à gauche que le Figaro. Il y a vraiment rien de raciste chez eux. Je suis parti 20 fois au Danemark. Ce journal n'a absolument rien de raciste. Donc, l'une des propagandes, c'était de présenter ce journal comme étant un journal raciste, évidemment à l'ensemble des autorités des pays dits musulmans, et y compris à l'organisation de la conférence islamique, qui... voyant ce qui se faisait, regardant ces photomontages, etc., disons, les autres leur ont dit, regardez comment le Danemark nous voit, nous présente. Ils ont été effectivement outrés, ils ont fait des communiqués, et là, bon, il y a eu toute une histoire que vous connaissez, que je ne vais pas vous refaire. Pour faire très vite, vint le procès. Et ça, quand même, je veux quand même poursuivre, pour être dans les temps et assez discipliné, déjà que je vais déborder deux minutes. Pas plus. Et ça, c'est toujours l'indulgence des organisateurs. Au départ, je me rappelle, et j'en ai discuté encore, parce que récemment, j'en ai reparlé avec les vieux amis de Charlie, notamment Philippe Val, il y avait une trentaine de personnes de culture ou de confession musulmane. Je ne citerai pas les noms, parce que ça ne sert à rien, je ne suis pas de ceux qui jettent des noms en pâture, qui s'étaient spontanément... présenté à Charlie Hebdo, enfin de manière différente, hein, en appelant, en rencontrant les différents, enfin Charb, Philippe, etc., en disant bon, on est là, allez-y, il faut assumer, publiez-les, s'il y a procès, on est là, etc. Et effectivement, j'en fais modestement partie. Au final, je suis arrivé à convaincre un ami d'origine iranienne, qui est danois d'origine iranienne, Mehdi Mozafari, qui est venu témoigner au procès. Il y a eu le regretté Abdelwahab Medeb qui a tenu parole, qui est venu témoigner au procès, et il y avait moi, votre modeste serviteur. Donc il y avait 28, en fait, parce que le Danois ne le compte pas, puisqu'il n'était pas compté. Il y avait à peu près 25, plus d'une vingtaine, qu'on a perdu entre-temps. On a perdu, sans le vaporer. Alors, je ne leur jette pas la pierre, parce que je peux témoigner de la violence que nous avons subie. Tous, et surtout les personnes qui étaient de culture ou de confession musulmane, y compris dans nos pays d'origine. C'est-à-dire, la pression venait y compris de nos pays d'origine. Mes parents ont subi une perquisition pour un motif, évidemment, que vous comprendrez, ça faisait peut-être 15 ans que je ne m'étais pas rendu en Algérie, puisque je ne m'y rends plus. Mes parents ont subi une perquisition. Il est où, Mohamed ? En fait, chaque semaine, ils me voyaient à la télé, mais bon, ils venaient me chercher. Ils savaient, les autorités officielles ne savaient pas que je ne rentrais pas. Enfin, ils venaient comme ça, comme par hasard, à 3 semaines du procès. Et par ailleurs, je recevais des menaces et des pressions pour ne pas aller témoigner. Et d'autres en ont reçu autant, des menaces, des pressions, des injonctions, etc. Ce qui a fait que beaucoup de figures, y compris... Parce que souvent, on se demande, hein, oui, pourquoi... Je ne dis pas que je suis plus courageux que d'autres, je suis un peu plus irresponsable que d'autres. Parce que lorsqu'on a quelques responsabilités, normalement, on ne devrait pas. Je vous le dis honnêtement, quand on voit surtout quand on vit dans cette sphère, dans ces sociétés aujourd'hui, qu'on voit la lâcheté ambiante. Ce n'est pas le courage qui l'emporte. Et on peut se dire légitimement, pourquoi je ne fais pas comme tout le monde? Pourquoi je ne fais pas comme tout le monde? Pourquoi finalement je vais, moi, continuellement, essayer de me mettre devant quand la société, qui est tout aussi concernée que moi, ne se sent pas, elle, concernée? Et je dirais plus concernée que moi, parce que vous savez quoi? Moi, des amis, j'en ai perdu. J'en ai enterré. Des membres de ma famille, j'en ai enterré. On m'a tiré dessus, des balles qui sifflent, je sais ce que c'est. Vous, vous ne savez pas ce que c'est. Vous, vous allez être terrifié le jour où ça va vous arriver. Donc, ce n'est pas pour faire un meeting politique, mais je vais vous dire une chose. Et je m'adresserai désormais comme ça à la société française. C'est plus votre problème que le mien. Moi, ça fait 30 ans que je suis engagé dans ce combat. Et je n'ai de leçons à recevoir de personne. Je crois que j'ai assez donné, je continuerai. Je ne vais pas m'arrêter demain. Sauf qu'il y a, deux choses essentielles, me semble-t-il, dans l'esprit de chaque citoyen. C'est est-ce qu'on va exprimer notre citoyenneté républicaine, c'est-à-dire être capable de lutter contre l'islam politique, sans haine, ni violence, sans racisme, ni xénophobie, sans populisme, et sans tomber dans le piège de l'extrême droite. Parce qu'il ne s'agit pas de dire oui, alors je vais vous expliquer, oui, les musulmans, c'est des salauds, il faut tous les foutre dehors. Non. C'est-à-dire qu'en gros, on va créer des situations où on va mettre sur un pied d'égalité celui qui a subi le terrorisme islamiste, qui l'a combattu, qui s'est opposé à lui, au même niveau que celui qui le commet. Enfin, on est où? On est en République française? Pays de classicisme, de justesse, de l'esprit, et de finesse et de nuance? Non. On est chez les beaufs. Il n'y a que les beaufs qui parlent comme ça. Donc, pour finir, le témoignage, excusez-moi, j'ai essayé de donner plusieurs éléments et des pistes, peut-être qu'après je répondrai à des questions, mais pour finir sur ce sujet, je savais, et peut-être d'autres qui étaient là, Caroline Fourest, Philippe Val, d'autres qui étaient là, peuvent en témoigner. Je savais, au moment du procès, que ça allait finir dans le sang. Vous savez pourquoi? Parce qu'on était seuls. Parce que Charlie Hebdo était seul. Parce que si toute la presse française, si toute la société, si on avait eu la manifestation, et on est aujourd'hui le 11 janvier, non pas 2015, mais le 11 janvier 2005, pour dire la liberté d'expression dans ce pays, on n'y touche pas, parce que ça fait partie d'un corpus qui est le corpus démocratique, et le corpus démocratique, c'est notre projet de société, on n'y touche pas, comme on ne touche pas aux valeurs essentielles que sont le féminisme, que sont la laïcité, que sont l'égalité, eh bien jamais, je vous dirais, ces meurtres n'auraient eu lieu. Parce qu'on aurait diabolisé l'ennemi. Or, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas su diaboliser l'ennemi.
Merci, merci Mohamed. Je pense que cette intervention très forte va nous secouer à la mesure de la nécessité du moment. Je voudrais maintenant qu'on aille un peu plus vers le nord-est, et qu'on aille en Belgique pour écouter ce que Viviane Tettelbaum a à nous dire sur ce qui se passe là-bas, ce dont elle a été témoin. Donc, je vais dire quelques mots pour vous présenter. Vous êtes licenciée en journalisme et communication sociale avec un master de relations internationales. Vous êtes depuis 2004 membre du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale où vous présidez la commission environnement et vous êtes vice-présidente de la commission égalité femmes-hommes. De plus, au plan municipal, vous êtes échevine, ce qui veut dire adjointe au maire, des finances et de la propreté à Ixelles depuis 2012 et du commerce et du développement économique depuis 2016. Vous êtes très investie dans l'action féministe et vous avez présidé le lobby européen des femmes de 2012 à 2016 et vous présidez encore le Conseil des femmes francophones de Belgique depuis 2010. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages et avez collaboré à plusieurs publications collectives. Vous, par vos actions parlementaires et féministes, vous vous êtes engagé dans la défense des valeurs démocratiques, la laïcité, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre l'antisémitisme, contre l'homophobie, contre le racisme. Et vous avez été présente sur les grands chantiers de l'action féministe, les violences contre les femmes, l'abolition de la prostitution, le droit à l'IVG, la lutte contre le sexisme, la parité dans la représentation. Je crois qu'on est très nombreuses ici à avoir mené les mêmes combats. Vous avez implémenté le premier budget municipal sensible au genre en Belgique et vous allez nous en dire plus.
Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invitée ici, aujourd'hui. Voilà. Je ne vais pas essayer de vous expliquer la Belgique parce que c'est compliqué chez nous. Voilà, on va se souvenir. Avant, on parlait des frites et du chocolat. Maintenant, il y a Molenbeek. Vous dites Molenbeek. Voilà. Hein ? Moi, je dis Molenbeek. Toi, tu dis Molenbeek, oui. Mais lui, il a été se promener à Molenbeek à plusieurs reprises, donc presque un vrai Belge. Voilà, je vais vous dire quelques mots sur ce qui se passe chez nous aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est difficile. Alors, moi, je suis effectivement une militante. Aujourd'hui, je suis aussi une femme politique. Je suis engagée. Je suis féministe, résolument. Mais je suis aussi juive, et donc je cumule quelques tares. Quand on veut parler librement, être une voix libre, et donc c'est parfois très difficile de dire ce que je pense, mais j'essaye de rester cette voix libre que j'ai toujours été. Alors, en Belgique, outre le fait qu'on a plusieurs niveaux de pouvoir et plusieurs parlements, plusieurs régions, plusieurs communautés, on n'a pas de laïcité inscrite dans la Constitution. Nous sommes plutôt un État neutre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la neutralité? Ça dépend aussi, il y a différentes interprétations. Et donc, ce n'est pas facile d'avoir des prises de position. Comme vous savez qu'on est aussi le pays du consensus, où tout est toujours discuté jusqu'à ce que la nuit soit passée, parfois plusieurs nuits, parfois plusieurs semaines, pour arriver à ce que tout le monde soit d'accord sur quelque chose, on finit par avoir un pays éclaté qui offre un ventre mou par rapport à tous les extrémismes et on finit par ne jamais légiférer pour mettre fin à des situations auxquelles il serait pourtant urgent qu'il serait urgent d'arrêter. Et donc on se retrouve avec les cultes reconnus, hein, on en avait... La séparation Église-État date de la création de la Belgique en 1830, mais il y avait quatre cultes reconnus, le culte catholique, anglican, israélite et protestant. Et depuis 1974, il y a le culte musulman. Depuis 1985, je pense, il y a le culte orthodoxe. Et depuis 1993, il y a la laïcité qui est comme un culte reconnu. Et donc, financé... Voilà, c'est la Belgique. Pays du surréalisme, mais donc la laïcité est ce qui est pas plus mal parce que on a une laïcité militante, active, financée comme les autres cultes, mais du coup le mot laïcité prend évidemment une toute autre connotation et même ceux qui sont laïcs ont plus de difficultés à lutter pour l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Et parle plutôt comme ma formation politique. Donc moi, je suis libérale, dans un parti centre-centre-droit. Je suis libérale progressiste. Mon parti a plutôt opté pour neutralité et impartialité liées ensemble. Donc, les pouvoirs publics qui agissent de manière neutre et impartiale, parce que laïcité, effectivement, est un peu connotée. Alors, nous avons aussi un pacte scolaire qui garantit d'une part l'école publique neutre, mais d'autre part l'enseignement libre subventionné. Donc, on a tout, mais on n'a vraiment rien, parce que dans l'enseignement libre qui est supposé être, dans l'enseignement public qui est supposé être neutre, nous n'avons jamais légiféré pour interdire le port de signes convictionnels. Moi, j'ai signé à plusieurs reprises des textes là-dessus, mais ils n'ont jamais été votés, ils ont toujours été rejetés. Par la gauche, progressiste, mais pas du tout laïque, parce qu'aujourd'hui, très clientéliste électorale, comme disait Françoise Laborde là tout à l'heure. Et donc, on a remis les clés et le pouvoir de décision au chef d'établissement, ce qui est évidemment très lâche politiquement, parce que ça a donné d'abord des écoles qui n'osaient pas interdire, puis certaines écoles qui ont interdites. Et dans certains quartiers, comme à Molenbeek, une fois que certaines écoles interdisaient, que d'autres en gardaient, bien vous aviez des écoles ghetto où les petites filles étaient voilées, et puis les autres écoles où c'était interdit. Vous avez aussi eu des écoles où il y a eu des tentatives de laisser le port du foulard, mais où très vite après, les élèves ne pouvaient plus, les fillettes ne pouvaient plus partir en voyage scolaire, ne pouvaient plus participer au cours de gymnastique, ne pouvaient plus aller au cours de biologie, où les réunions de parents, les papas ne voulaient plus être assis avec les mamans et les professeurs femmes ne pouvaient plus parler aux pères. Enfin, voilà. Donc ces écoles qui ont essayé ce qu'on appelle de manière très bateau en Belgique, mais très souvent le vivre ensemble, n'a pas fonctionné et donc la plupart des écoles, sauf dans certaines, dont à Molenbeek, ont interdit le port du foulard. Par contre, les enseignantes ne sont pas supposées porter le foulard ou les accompagnatrices quand elles accompagnent des élèves qui sortent. Mais évidemment, les accompagnatrices étant des mamans et que les mamans ont un foulard et que c'est difficile quand même de leur demander d'enlever le foulard quand elles accompagnent leurs élèves parce qu'elles font ça bénévolement et que finalement, voilà. Que les profs de religion, ben, elles veulent porter le foulard pendant le cours de religion, mais qu'après, finalement, elles le gardent parce que, voilà, on ne va pas leur demander de l'enlever non plus. Et donc, tout ça devient très compliqué et on finit par avoir des lois qui ne sont pas respectées, qui finalement n'ont pas vraiment été votées, mais qu'on a quand même imposées sur base d'une notion qui est cette neutralité, que le Centre pour l'égalité des chances a réussi à décliner en deux versions, l'égalité, la neutralité inclusive et la neutralité exclusive, c'est-à-dire que est-ce qu'on interdit aux personnes du service public dans les municipalités qui sont en contact avec le public de ne pas porter de signes distinctifs? Ça, c'est la neutralité exclusive. Mais si on autorise celles qui sont dans les bureaux parce qu'elles ne sont pas en contact avec le public de les porter, une fois qu'il y a quelqu'un qui est malade, qu'elles doivent le remplacer, est-ce qu'on peut leur demander de l'enlever quand elles sont en contact avec le public? Bien évidemment que non, parce que ça, ce serait très discriminatoire. Et donc, vous avez bien évidemment toute une série de communes qui sont listées comme Molenbeek, Forêt, Anderlecht, etc. Vous avez des personnes qui travaillent dans les municipalités qui sont voilées, des écoles où les professeurs sont voilés, des écoles où les accompagnatrices sont voilées. Où, voilà. Donc, on a une espèce de grand foutoir, je ne sais pas si on sait dire ça joliment, mais qui est la résultante de beaucoup de manque de courage politique, finalement, chez nous. Alors, comme féministe, j'ai été en contact avec cette dure réalité du féminisme qui, contrairement à tous les autres racismes, n'est pas quelque chose qui est ancré, coulé dans le bronze, j'ai envie de dire. On peut toujours reculer. Hein. Le féminisme peut toujours reculer. Ce ne sont jamais des droits acquis. Ce n'est jamais quelque chose qui est là pour durer, parce que finalement, ben voilà, elle a le droit d'exercer son culte, donc finalement, est-ce qu'on a vraiment le droit de lui interdire d'eux, etc. Et donc, dans une ville, moi j'ai été à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, qui est une université laïque, basée sur les valeurs du libre examen. Aujourd'hui, vous avez énormément d'étudiantes voilées. Quand moi j'étais là, on bouffait du curé. On ne bouffait pas du rabbin parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait même pas du tout, en fait. On était très peu nombreux. Sinon, on l'aurait bouffé du rabbin aussi. Je pense que ça ne posait pas de problème. Moi, je le fais régulièrement. Je n'ai pas de problème avec ça. Cachère, toujours, ouais. Mais on ne peut pas s'attaquer, comme disait M. Billard au début, à l'islam, parce que ça, c'est dangereux. Ça ne se fait pas. Il faut comprendre. Il faut être ouvert. Il faut être... voilà. Et donc, on se retrouve dans toute une série de situations, et en partie les femmes. Chez nous, donc, le Conseil des femmes a, par exemple, pris position contre le port du foulard à l'école. Ça a créé beaucoup de problèmes. Quand on a parlé des assises de l'interculturalité, que j'ai invité Jemila à venir parler au Conseil des femmes à Bruxelles, je peux vous dire que ça a été très houleux. On avait l'association Coupole musulmane, l'équivalent de en Belgique, qui avait une vice-présidente convertie, voilée, très voilée, et qui a voulu faire de l'entrisme, mais voilà, on a résisté. Et en fait, moi, j'ai l'impression, depuis, de faire de la résistance en permanence, en particulier, sincèrement, sur les droits des femmes. Alors, ceux qui assignent les femmes à rôle déterminé, à résidence dans des rôles, m'assignent comme juive à résidence identitaire. Et donc, c'est vrai que j'ai très souvent du mal à m'exprimer. Et au Parlement bruxellois, j'ai à plusieurs reprises vraiment eu l'impression de ne plus pouvoir m'exprimer sur toute une série de sujets, y compris d'ailleurs le Moyen-Orient, parce que si vous ne dites pas que vous détestez Israël, qui est déjà un gros mot en soi, mais soit, si vous ne dites pas ça avant de commencer une intervention, eh bien, vous êtes tout de suite hué. Moi, j'étais hué de gauche à droite dans l'hémicycle, extrême gauche, extrême droite, pareil. Et donc, je me suis heurtée à être mise à résidence dans beaucoup de sujets, y compris sur le féminisme. Parce qu'à Bruxelles, il y a toute une série d'associations maintenant, dont le nom va de tête à bien d'autres, avec des féministes qui étaient vraiment ces premières féministes dont j'ai beaucoup appris il y a très longtemps, qui sont des féministes qui défendent le port du foulard et qui se disent féministes musulmanes. Ça devient quelque chose de très difficile de s'exprimer. Et je vous assure que ici, voilà, c'est facile, c'est confortable. Je sais que voilà, on partage les valeurs, beaucoup de valeurs en tout cas. Mais dans beaucoup d'hémicycles et beaucoup de lieux où je suis amenée à prendre la parole, alors j'ai pas encore entendu les balles siffler, mais j'ai été à plusieurs reprises menacée, insultée, hurlée dessus, huée. Et sincèrement, à plusieurs reprises, en entrant dans l'hémicycle, j'ai vraiment cru qu'on me déposait une étoile jaune sur la poitrine et que je ne pouvais plus m'exprimer sur toute une série de sujets. Moi, j'ai rencontré Mohamed et Jemila quand j'ai écrit un livre qui s'appelait « Quand l'Europe se voile ». Et j'ai été interviewée à la télévision, on dit télévision en Belgique. Et la première question que la journaliste m'a posée, c'est « Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'une femme juive écrive sur le foulard ?» Et j'ai dit « Est-ce que vous avez une liste de sujets sur lesquels je ne peux pas m'exprimer ?» Parce que alors, donnez-les tout de suite et voilà, comme ça, c'est emballé. Mais donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'en Belgique aussi, c'est très difficile. Donc on a en plus très peu d'intellectuels... On a des intellectuels, mais on en a très peu qui osent s'exprimer comme Mohamed ou comme Gérard Villard ce matin, comme Jemila. On en a très peu aussi sur l'éventail politique. On n'a pas des intellectuels comme Alexandre Adler. On n'a pas des intellectuels. On en a... je ne sais pas, j'ai peut-être choqué. Voilà, mais ce que je voulais dire... Moi, je l'aime beaucoup, donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que vers centre-droit, droit... Nous n'avons personne qui ose s'exprimer en Belgique. Et c'est très difficile. Quand on est à gauche, on ose parler. En général, on n'ose pas parler. Vous savez qu'après après les massacres de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, nous avons aussi une marche en Belgique. Il y en a eu dans beaucoup de villes qui étaient solidaires de ce qui s'est passé ici. Nous n'avons pas marché contre l'islamisme. Nous n'avons pas marché contre le terrorisme. Nous n'avons pas marché contre ce qui s'est passé ici. Nous avons marché pour le vivre ensemble. Ah, et ça, c'était la gauche, les Verts, c'était tous ces gens-là qui se sont mis ensemble, tous nos intellectuels qui sont dans le politiquement correct, qui se sont mis ensemble pour organiser cette marche. Et je vais terminer, je crois que je dois être aussi au bout de mes... Juste en vous disant que nous avons en plus la chance, dans le Parlement où je siège, d'avoir la première femme voilée, parlementaire en Europe, d'origine turque, enfin, elle est double nationalité, elle est belge et turque, puisque on garde sa nationalité turque, proche d'Erdogan. Elle n'est pas seulement voilée, elle est habillée jusque-là avec plusieurs jupes et plusieurs blouses et le filet en dessous. Oui, elle est frère musulman. Nous avons pas mal d'officines frères musulmans à Bruxelles, certaines qui sont plus sournoises, certaines qui sont plus ouvertes. Mais donc voilà, c'est quelque chose aussi de très difficile à vivre parce que nous n'avons pas été capables... de mettre cette limite-là non plus. Et donc, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les institutions publiques, que ce soit au Parlement bruxellois, que ce soit dans les hôpitaux, ça, j'en ai même pas parlé, mais voilà, dans les universités, au nom de la liberté d'expression, on peut être antisémite, on peut être homophobe, on peut battre sa femme, on peut l'emballer, la voiler, mais on ne peut pas dire qu'on est contre tout ça. Et ça, ça mène à Molenbeek, ça mène à Forêt, ça mène à tout ce qui s'est passé, qui vient de la Belgique, j'en suis persuadée.
Merci Viviane Tettelbaum de ce témoignage qui montre bien que nous rencontrons les mêmes obstacles, en tout cas dans nos deux pays. Nous allons faire maintenant un petit détour par la Suisse. Pierre Gauthier, vous êtes dans le canton de Genève. Vous avez été travailleur social, journaliste, chargé de communication, formateur d'adultes. Vous êtes actuellement député au Grand Conseil Genevois, le Parlement du canton, et conseiller municipal de la ville de Genève. Vous avez fondé le Parti radical de gauche à Genève, que vous présidez. Vous êtes également membre de la Libre Pensée de Genève et de la Coordination laïque genevoise. Je précise pour notre public que le canton de Genève applique la laïcité.
On en parlera.
Vous en parlerez. Enfin, je pense. Vous êtes l'auteur d'un projet de loi sur la laïcité qui fait aujourd'hui l'objet d'un vaste débat au Parlement, mais également dans les médias et dans le public. Et vous allez nous en parler comme de la réaction étonnante de votre groupe politique à la suite du dépôt de ce projet de loi. Je vous donne la parole.
Je vous remercie beaucoup. Alors, merci d'abord de me recevoir parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde. Et je trouve extrêmement intéressant qu'il y ait autant de monde qui s'intéresse à la liberté d'expression parce qu'aujourd'hui, entendons-nous bien, elle est plutôt mise à mal. Alors, je vais en décevoir beaucoup. Je ne suis pas banquier, bien que j'habite à Genève, donc je suis désolé. Deuxième chose qui va vous décevoir, je dois vous avouer que ce ne sont pas les marmottes qui emballent le chocolat dans du papier d'aluminium dans la maison de Heidi. Et troisième chose qui va encore plus vous décevoir, le lac de Genève s'appelle en fait le lac Léman. Donc voilà, maintenant je peux commencer les choses sérieuses. Alors j'ai été assez tôt un vilain petit canard puisque j'avais une trentaine d'années. Quand, en lisant le journal, j'apprends Sabra et Chatila, et j'étais complètement outré par ce qui s'est passé, et je prends ma plume et j'écris un courrier des lecteurs dans la Tribune de Genève, où il y a quelques articles entre les publicités, et j'écris « Merci, Monsieur Begin, de nous montrer votre vrai visage ». Et évidemment, vous imaginez la suite. Et immédiatement, il y a eu... derrière cette liberté d'expression, finalement, un tollé gigantesque et à tel point que menaces de mort, téléphone nocturne, enfin, vous imaginez la suite. Et il y a eu deux réactions. Une réaction occulte de ces gens qui en voulaient terriblement à ma vie et en tout cas à ma santé. Et une autre réaction qui m'a beaucoup intéressé, c'est celle de personnes qui m'ont dit « Bravo, vous avez le courage de dire ce que vous pensez. Moi, je suis juif, je pense la même chose que vous, etc. On peut critiquer Israël sans être antisémite et toutes ces choses. » Donc, voilà, c'était la première fois que j'étais confronté, au fond, avec la difficulté d'exprimer une opinion, même si elle est un peu divergente. Ensuite, j'ai eu la chance... toujours dans l'antisémitisme primaire dont je suis évidemment le représentant, c'est une blague, hein. J'ai fait la une d'un journal israélien parce que j'ai eu l'outrecuidance de demander le respect de la loi genevoise qui interdit toute manifestation culturelle sur la voie publique. Et évidemment, j'ai pris comme exemple, puisque c'était le seul exemple qui arrivait, la manifestation de Hanouka, le culte de Hanouka, qui est le seul culte qui est autorisé sur la voie publique de toute la République et canton de Genève. Alors, je ne vous dis pas les réactions. Un conseiller municipal, parce qu'à l'époque, je n'étais pas député, antisémite, siège au conseil municipal de Genève, etc. etc. Bon. Ensuite, j'ai été traîné dans la boue par les catholiques, parce qu'il ne faut pas les oublier quand même, parce que j'ai demandé à ce que les églises ne soient pas subventionnées par l'État, les églises, j'entends les bâtiments, en fait, qui était un subventionnement alternatif de ces églises. Et alors, à ce moment-là, ce qui est aussi la loi à Genève. Alors, je ne vous dis pas le nombre incalculable de fois où j'ai été traité de laïcard, de laïciste, d'intégriste de la laïcité, bien évidemment, de christianophobe, d'islamophobe, de protestophobe, d'antisémite, etc., etc., etc. En fait, tout cela est vrai puisque je suis simplement, comme l'a dit Mohamed et d'autres, je suis simplement un républicain. Et je crois qu'ici, nous sommes tous des républicains et nous sommes fiers de l'être et nous voulons défendre cette idée des valeurs de la République. C'est ce que nous faisons à un niveau, évidemment, qui est le nôtre, c'est-à-dire, en tout cas, au niveau qui est le mien, qui est celui d'un petit conseiller municipal d'une toute petite ville sans importance qui s'appelle Genève et celui d'un député d'un petit canton qui n'a aucune importance non plus, qui s'appelle le canton République et canton de Genève. Alors, je vais venir au cœur de la question. Et nous avons eu autour de la table, à cette table-là, quelques politiques, des personnes qui étaient plutôt
disons, républicain de droite. Je me souviens du témoignage qui m'a beaucoup surpris et intéressé et que j'ai beaucoup apprécié, celui de Lydia, Nadia aussi et toutes les autres, hein, bien évidemment. Alors, ça me rassure de voir qu'il y a des personnes jeunes qui se battent aussi pour ces libertés, parce qu'à un moment, je pense que les personnes qui ont plutôt mon âge, hein, j'ai 67 ans dans 3 jours, vous pouvez me dire bon anniversaire. Merci, ça c'est fait. Je suis très très heureux de voir qu'il y a des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui se battent pour ça, parce qu'effectivement, à une époque, à un moment, on a eu l'impression d'être extrêmement seul et d'extrêmement isolé dans une société qui était en train de glisser comme ça vers une sorte de folie communautariste, relativiste, etc. À Genève, nous avons la séparation des églises et de l'État depuis 1907, à la suite d'un projet de loi constitutionnel qui a été déposé par ce que l'on appelle les radicaux. Les radicaux genevois sont des gens plutôt à l'extrême gauche. Je me considère plutôt à la gauche du Parti socialiste. Et donc, comme le dirait mon petit-fils, si tu es à l'extrême gauche, tu es communiste. Je ne lui dis pas exactement, mais enfin, je t'expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc, je suis à la gauche de la gauche dans un groupe politique qui est une coalition de plusieurs mouvements qui sont des mouvements qu'on pourrait appeler gauchistes, comme vous en connaissez ici en France, la LCR, enfin, des trotskistes, des maoïstes, des mao-trotskistes, des crypto-lambertistes, enfin, toute cette clique d'églises et de chapelles dont je ne ferai pas la liste parce qu'elle est impossible de la faire, il est impossible de la faire. Et moi, je faisais partie d'une association qui était là pour la défense des droits des plus faibles et des plus défavorisés à l'intérieur de cette coalition. Et j'ai eu l'outrecuidance de déposer un projet de loi sur la laïcité parce que, précédemment, j'avais eu un mandat de constitutionnel, c'est-à-dire on a changé la constitution genevoise. Entre 2008 et 2012, il y a eu une constituante. Et au sein de cette constituante, eh bien, je me suis dit, on va apporter des éléments pour bétonner, si vous me permettez, cette laïcité genevoise qui, en fait, et qui existe, mais qui n'a jamais été écrite dans aucun texte. Et j'ai proposé un certain nombre d'amendements à la Constitution, enfin, de propositions d'articles à la Constitution, qui étaient notamment l'interdiction du port du signe ostentatoire religieux dans les mandats électifs, dans le cadre scolaire, dans le domaine public, pas le domaine public, évidemment, pas sur la rue, mais disons dans le domaine d'action de l'État. Et sur 80 constituants, cette proposition a été, si mes souvenirs sont justes, a été soutenue par 5 personnes et démolie par 75 autres. J'ai aussi proposé que les serments, les députés, le Conseil d'État qui est le gouvernement prêtent serment, et aujourd'hui ils prêtent serment dans la cathédrale Saint-Pierre au lieu du culte protestant sur la Bible. Et j'ai demandé qu'à ce que les serments soient faits d'une manière laïque et dans des lieux laïques. Alors là, encore une fois, gros succès d'estime. Je crois que j'ai eu 3 voix pour et 77 voix contre, etc., etc. Tout ça pour vous dire que la Constitution a été votée en 2012 avec trois articles, enfin un article et 3 sous-articles. Vous me dites si je dépasse. L'article principal, pardon. Je n'en ai pas. Ça n'est pas moi.
Il vaut mieux éloigner vos téléphones au maximum.
On va faire la pause portable. Voilà, pause technique portable. Que ceux qui ont des portables sortent. Voilà. Si vous appuyez, ça fonctionne. Non, il faut mieux appuyer. Voilà. Voilà, c'était la pause technique est finie. Donc, la Constitution a été acceptée en 2012 avec un article 3 qui dit « L'État est laïque ». Magnifique. Virgule. Il observe une neutralité religieuse. encore magnifique, bien que je me dise pourquoi est-ce qu'on explicite la laïcité avec la neutralité religieuse, sachant que tout le monde qui a fait du latin ici, bien sûr, sait que neuter, c'est ni l'un ni l'autre, donc on va pas commencer à ergoter. Mais bon, jusque-là, ça m'allait. Deuxième alinéa, il observe une neutralité religieuse. Il ne subventionne ni ne salarie aucune activité cultuelle. Et là, les choses commencent à me titiller l'oreille en me disant pourquoi on ne dit pas simplement qu'il ne subventionne ni ne salarie aucun culte ou aucune église ou aucune religion ? Eh bien, parce que nous avons une histoire à Genève qui est une histoire très liée à un Français d'origine, Jean Calvin, que vous connaissez sans doute, de réputation en tout cas, c'est notre ayatollah, nous, hein, je veux dire, on peut quand même, il faut quand même lui rendre hommage à ce titre-là. C'est quand même lui qui a fait décapiter Michel Servet, qui a brûlé quelques athées déclarés, qui a chassé Sébastien Castiglione, qui était un homme qui avait inventé la laïcité finalement à cette époque-là. Donc, notre ayatollah à nous. L'histoire de Genève est très liée au protestantisme qui est identifié, pas tout à fait à tort d'ailleurs, il faut le dire, avec la liberté religieuse. Le protestantisme a quand même permis à un certain nombre de gens de se libérer du joug de Rome. Mais en demandant à ce que l'on ne subventionne pas les églises, on coupait de fait les subventionnements occultes, pas directs, mais disons la possibilité qu'a l'État, qu'ont les églises reconnues, d'utiliser notre feuille d'impôt pour dire, voilà, je suis catholique, j'aimerais bien que l'on verse tant de francs à l'église catholique. C'est-à-dire que l'État de Genève, qui est prétendument laïque, qui observe une neutralité religieuse, comme je vous l'ai dit, permet à des églises reconnues, l'église protestante, l'église catholique romaine et l'église catholique chrétienne, qui est une sorte d'avatar post-radical de l'église catholique à Genève, de bénéficier finalement d'un label de crédibilité de l'État pour récolter de l'argent. Et puis, le pire du pire, troisième alinéa de cet article 3, l'État entretient des relations avec les, tenez-vous bien, communautés religieuses. Et là, on ouvre évidemment la porte à la reconnaissance et à la négation de la laïcité. Depuis 2012, je n'ai eu de cesse de me battre d'abord contre l'acceptation de cette constitution, et contre la mise en œuvre de ces trois alinéas, enfin des deux derniers surtout. Et comme nous avons un temps limité, non seulement ici, mais disons au niveau constitutionnel aussi, pour intervenir dans la mise en œuvre des lois suite à cette acceptation, j'ai déposé un projet de loi qui recadre, hein, je me suis bien inspiré quand même du projet de loi 1905, de la loi 1905 française, et qui cadre au fond la laïcité, qui donne un cadre tout à fait simple, la séparation de l'Église et de l'État, etc., etc. Et là, à l'intérieur de mon groupe politique, ça a été l'explosion. Les islamo-bobos, les collabobos, gauchistos, je ne sais quoi, ne peuvent pas supporter qu'on mette en cause le relativisme culturel dont ils sont porteurs. Et nos propres amis deviennent nos propres ennemis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai été tout simplement, de fait, exclu de mon groupe. Alors bon, je ne suis pas le premier, hein, je veux dire, il y en a plein, des groupes politiques qui excluent. Mais pour cette raison-là exclusivement, quasiment exclusivement, et donc privé de pouvoir défendre mon projet de loi dans la commission ad hoc. Alors ça s'appelle de la censure, clairement. Et ça veut dire que, indépendamment de tout ce qui a été dit, et auquel j'adhère tout à fait. Donc, Mohamed, d'ailleurs, je suis extrêmement heureux d'être à côté de M. Sifaoui, bien aussi à côté de vous et à côté de vous. Mais Mohamed Sifaoui a été pour moi une lumière d'expression à partir des événements quand je l'ai vu sur France 2 à la télévision. Et je me suis dit, mais il y a quand même quelqu'un qui réfléchit dans cette télévision. C'est incroyable. Donc, merci, Mohamed, de nous avoir donné cette lumière. Non, c'est vrai, franchement. Je pense qu'on le pense tous. Donc, voilà. Et donc, depuis ce moment-là, je me trouve dans une situation difficile, pas très difficile parce que je suis encore vivant, bien évidemment, mais disons, la lutte est très difficile parce que nous avons des ennemis devant et nous avons des ennemis derrière. Et c'est envers ces ennemis de derrière que c'est eux qui nous portent les coups des fois les plus difficiles, parce qu'au fond, ce sont des collaborateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que les moments que nous vivons maintenant sont exactement historiquement différents, évidemment très différents de ce qui s'est passé dans les années 30 et 40, mais ça procède de la même chose. C'est du fascisme, c'est du nazisme, nouveau style, et il y a déjà des gens qui sont d'accord de collaborer avec cette terrible régression de nos droits qui est en train de se faire, de ce que nous voyons. Et nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreux, heureusement, à lutter contre ça. Et je vous remercie beaucoup parce que ça me rassure, ça me fait très plaisir de savoir que nous sommes tous unis, peut-être avec des manières différentes, pour lutter contre ce véritable cancer qu'est cet islam politique. Mais je dirais la politisation, la volonté des religions de reprendre le pas sur le droit et de transformer le droit en morale, ce qui est absolument inacceptable. Je vous remercie.
Merci. Je vais très vite passer la parole à Louise Mayou, qui est philosophe, essayiste, féministe et laïque. Elle est en particulier l'auteur de deux ouvrages portant sur la laïcité, « La laïcité, ça s'impose » et « Une charte pour la nation ». Elle a collaboré au Dictionnaire de la laïcité, que j'ai eu l'honneur de co-diriger, publié chez Armand Collin en 2011 et réédité en 2016. En 2009, elle a cofondé avec Jemila Benhabib le collectif citoyen pour l'égalité et la laïcité. Elle tient un blog et collabore à différents médias électroniques. En 2014, le mouvement laïque québécois lui a décerné le prix Condorcet des Saules. Elle est aujourd'hui poursuivie pour diffamation par une militante musulmane pro-voile et elle est en attente de son procès. Enfin, elle préside actuellement le comité de soutien de Jemila Benhabib au Québec. À vous la parole, Louise.
Merci, Martine. Alors, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, à entendre tout le monde cet après-midi, je constate que de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Nord, nous avons aussi sensiblement les mêmes problèmes, et je dirais de plus en plus. Mais nous avons une particularité, c'est que chez nous, au Québec et au Canada, il y a aussi le multiculturalisme qui s'oppose au républicanisme et qui nous rend la défense et le combat pour la laïcité et contre les islamistes. Ça nous rend la tâche plus difficile. Alors, je vais expliquer grosso modo, parce que la laïcité, ce sont des principes, mais les mêmes principes, comment on va les appliquer dans chacun des pays, ça varie avec l'histoire du pays. Alors, je vais vous parler un petit peu au Québec de comment nous avons, où nous en sommes rendus, comment nous avons cheminé vers la laïcité et en quoi, à partir donc de la question du voile et de la question donc de l'islam, les choses ont changé et se sont un petit peu fracturées et ont rendu le combat plus difficile. Alors, au Québec, nous n'avons à l'heure actuelle aucun texte officiel, aucune affirmation constitutionnelle de ce qu'est la laïcité, ce qui veut dire qu'on voudrait contester quelque chose au nom de la laïcité sur le plan juridique. Nous n'avons aucune prise, il n'y a aucune affirmation officielle non plus de la séparation de l'État et des religions. Et ça veut dire aussi que nous n'avons aucune règle ou disposition législative dans les institutions d'État pour gérer le religieux. C'est un bar ouvert, autrement dit, tout à l'heure actuelle est permis. Notre premier ministre canadien s'en vante, nous sommes un pays très ouvert, très tolérant, un modèle à l'échelle internationale. Bon. Mais il y a quand même, au Québec, nous avons une histoire de la laïcité, il y a quand même une laïcité de fait. Alors, rapidement, pour mettre les choses en perspective, avant les années 1960, donc avant ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, il y avait une collusion entre le clergé catholique et l'État. Donc, et ça, ça veut dire que le clergé catholique contrôlait les hôpitaux, contrôlait tout le secteur de l'éducation, que ce soit les écoles publiques, les collèges classiques, comme ils étaient sur les conseils d'administration des universités. Et bien évidemment, ils décidaient du contenu du cursus pédagogique à tous les niveaux. Et on se doute bien de ce que ça veut dire. Il va falloir attendre, par exemple, 1968 dans les universités pour qu'on puisse enseigner Jean-Paul Sartre en philosophie, parce qu'il était athée. Alors, donc, il y a aussi, ils contrôlent la culture, ils exercent une censure. Vous avez des artistes québécois qui se sont, entre autres, exilés en France, des peintres, des littéraires, des chansonniers, pour pouvoir développer un peu et créer sans être trop inquiétés. Et ils contrôlaient, bien évidemment, l'éducation, c'est-à-dire les écoles publiques. Bon, alors... Il y a eu un processus avec la Révolution tranquille. L'État s'est affirmé de plus en plus dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la culture. Alors, ça a donné donc un vent de laïcisation. Les médecins et les infirmières ont remplacé les religieux et les religieuses dans les religieuses dans les hôpitaux. On a remplacé... fermé les collèges classiques, on a ouvert qui était une pépinière pour les futurs prêtres, on a remplacé ça par des collèges laïcs, on a laïcisé les universités, et c'est à ce moment-là donc qu'on a pu enseigner par exemple Jean-Paul Sartre. On a en quelque sorte laïcisé la culture également, et ça le fait que on a commencé à enseigner les sciences humaines dans les universités, la psychologie, l'économie, l'anthropologie, l'ethnologie, bon bref, davantage de sciences humaines et beaucoup moins de théologie. C'est ce que ça voulait dire ici. Par contre, à cette révolution tranquille-là, qui a amené un vent de laïcisation et qui a permis aussi pour les femmes... Par après, on a changé les mentalités. Il y a eu en 1969 la décriminalisation des contraceptifs, alors qu'avant, c'était interdit pour un médecin de prescrire des contraceptifs à une femme. Il y a eu en 1988 un gain au niveau de l'avortement, de l'IVG. Alors, on a pu obtenir ça. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que de plus en plus, l'identité des Québécois s'est définie non plus à partir du catholicisme, mais à partir de la langue. Alors même ça, je veux dire, a connu en quelque sorte une laïcisation, c'est-à-dire le référent principal de notre identité. Mais l'échec de la Révolution tranquille sur le plan de la laïcité, c'est que nous n'avons pas réussi à déconfessionnaliser les écoles publiques, c'est-à-dire primaires et secondaires. Donc, les écoles étaient encore soit catholiques ou protestantes, et bien évidemment, on y donnait un enseignement religieux, soit catholique ou protestant. Alors, ça veut dire que le mouvement pour la laïcisation au Québec, parce que ça existe, le mouvement s'est concentré, a mis le focus, si vous voulez, sur la laïcité scolaire. Et le but, c'était de déconfessionnaliser les écoles publiques. À ce moment-là, les forces en présence, le Québec était divisé en quelque sorte en deux. Vous aviez d'un côté ceux qui étaient en faveur de la laïcisation, vous aviez la gauche qui était unie, vous aviez les féministes qui étaient unis, vous aviez les syndicats qui étaient des leaders et qui ont été à l'avant-garde, je pense par exemple à la Fédération des travailleurs du Québec, pour exiger la déconfessionnalisation des écoles. Bref, tous les progressistes étaient dans le même camp. Contre, si vous voulez, en phase 2, il y avait ce qu'on appelait la majorité historique, ceux qui considéraient qu'on devrait continuer à donner un enseignement religieux puisque c'est notre identité, c'est notre histoire. Bon, bref, nous avons gagné, alors... On a pu, en quelque sorte, en 2005, c'est relativement récent, ça va faire 12 ans, qu'on a mis fin à l'enseignement religieux dans les écoles publiques. En 2006, le CIRPAN, le poignard rituel des Sikhs a été autorisé dans les écoles. Ça a été très mal reçu par la population en général. Il y a donc eu, en 2007, ce qu'on a appelé la crise des accommodements raisonnables. Parce que ce que les gens en avaient compris, c'est ça. Nous, il faut décrocher nos crucifix des écoles et on laisse tranquillement entrer les religions minoritaires. Et évidemment, le voile était aussi permis. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a pu entrer le kirpan? Alors là, je vous amène dans quelque chose d'un peut-être un petit peu compliqué, mais il faut passer par là. La question des chartes. Alors, en 1982, Trudeau père, le père de l'actuel premier ministre, il a rapatrié la Constitution canadienne à Ottawa en disant « On va négocier de nouveaux accords constitutionnels, on va donner davantage de pouvoir à la province de Québec, qui voulait davantage de pouvoir, et il ne faut pas perdre de vue que 2 ans avant, nous avions eu un premier référendum concernant la question de l'indépendance. Donc, Trudeau voulant empêcher que la chose se reproduise, il rapatrie la Constitution et il insère dans cette Constitution la Charte canadienne des droits et libertés, qui a donc une valeur constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parlement provincial dans toutes les provinces canadiennes qui peut adopter une loi qui irait à l'encontre de cette fameuse charte canadienne. En clair, ça veut dire que, avec la judiciarisation du politique, on a limité les pouvoirs politiques de chaque province pour instaurer finalement un gouvernement des juges. Et même si le Québec, aucun premier ministre québécois n'a accepté depuis 1982 de signer ce rapatriement de la Constitution, n'a accepté donc de signer la Constitution, nous ne la reconnaissons toujours pas. Mais comme nous ne sommes qu'une province et malheureusement pas un pays, nous devons respecter en quelque sorte la Constitution et la Charte canadienne. Bon, alors, le kirpan, je reviens au kirpan en 2006. Dans la Charte canadienne, il y a un article qui dit « On ne peut pas faire de discrimination, discriminer une personne en fonction de son origine, de son sexe, de son orientation sexuelle, si elle a un handicap, et de sa religion. » Alors, cet article-là, c'est l'article bonbon pour tous ceux qui veulent combattre la laïcité et redonner en quelque sorte aux religieux une légitimité et une visibilité dans nos institutions publiques. Alors, l'affaire du kirpan, on est dans une école au Québec, le directeur de l'école dit à l'élève, tu ne peux pas venir aller fréquenter l'école avec un poignard. Et évidemment, les parents, on suppose que des intégristes se sont approchés des parents. Les parents sont allés devant les tribunaux, ils ont invoqué le fameux article dont je vous parlais, de la Charte canadienne qui interdit donc la discrimination. Et donc, ça va devant les tribunaux, l'école gagne. Alors, les parents décident de faire appel, ce qui est le plus haut tribunal de la province de Québec. Ils font appel et, à leur tour, ils gagnent. Est-ce que c'est ça qui s'est passé ou l'inverse? Enfin, ça s'est retrouvé en Cour suprême et les juges de la Cour suprême ont donné raison au SIC en disant que pour un motif religieux, on est en train de priver cet enfant-là de son droit à l'éducation, qui est un droit fondamental. Et c'est ainsi que le kirpan est entré dans nos écoles. Évidemment, c'est un droit individuel qui n'est accordé qu'à une seule personne. Mais en même temps, c'est élargi à toute la communauté. Quel directeur d'école va à nouveau entreprendre une bataille pour se rendre jusqu'en Cour suprême et se faire dire qu'il y a un jugement de 2006 qui fait jurisprudence, etc. Donc, autrement dit, la chose est réglée. Le kirpan peut entrer dans les écoles. Alors, l'idée, c'est que tout est permis. Je vais vous donner des exemples très, très concrets. Il y a des policières à Toronto qui portent le voile. On a des agents de la GRC, de la Gendarmerie royale, de la police fédérale qui portent le turban sikh. On a même notre ministre actuel de la Défense qui porte le turban.
Louise, il va falloir se limiter à un seul exemple et après on lancera le débat. Okay, je suis désolée.
Alors, au Québec, finalement, on en arrive à vouloir légiférer. Et il y a eu aussi, en 2009, la question du voile qui a fracturé le mouvement féministe, qui est toujours divisé depuis. Et donc, il y a un gouvernement, le Parti québécois, qui, en 2013, décide de présenter un projet de loi. Et c'est un projet de loi dans lequel il va y avoir, entre autres, l'interdiction, on propose l'interdiction de signes religieux ostentatoires pour les employés de l'État. Il y a d'autres propositions aussi, que les services publics soient donnés et reçus à visage découvert. Ici, ça veut dire pas de niqab, on ne travaille pas et on ne reçoit pas de service avec le voile intégral. Bon, mais la proposition qui a été controversée et qui a déclenché toute une tempête, c'est évidemment celle sur l'interdiction donc de signes religieux. Alors là, les gens qui étaient en faveur de la laïcité par rapport aux catholiques, tout à coup, je veux dire, on s'est retrouvés avec des féministes qui défendaient une laïcité multiculturaliste, qui traitaient les militants laïcs de racistes. On s'est retrouvés avec des syndicats qui sont devenus très, très frileux sur cette question-là. Et on s'est retrouvé aussi avec une gauche qui est toujours divisée sur cette question, pour les mêmes raisons qu'ici en France ou dans d'autres pays d'Europe. Alors, 2014, pas longtemps après, on va en élection, le Parti québécois va en élection, c'était un gouvernement minoritaire, il espérait avoir une majorité pour être à l'aise, pour pouvoir légiférer. On va en élection, Jamila et moi, on se présente comme candidate pour le Parti québécois, on défend cette fameuse charte des valeurs qui était en fait une charte de la laïcité. Et notre parti va connaître, pour d'autres raisons que je ne développerai pas ici, une défaite cuisante aux élections. Et du 7 avril, et moi, trois semaines après, je reçois une poursuite en diffamation d'une jeune musulmane qui a été, durant tout ce débat qui a duré plusieurs mois, elle a été la Jeanne d'Arc du voile au Québec, la porte-étendard, l'égérie du voile, elle était de toutes les tribunes. Alors voilà. Donc, les militants laïcs ont été ciblés et de toute évidence, ce qu'on voulait, c'est écarter les gens, neutraliser les adversaires politiques, faire la promotion de la censure, judiciariser le débat public sur la laïcité et pour éviter qu'un nouveau projet de loi semblable à celui de 2013 refasse surface. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les Québécois, contrairement aux Canadiens anglais, nous sommes profondément républicains. L'État, pour nous, c'est quelque chose d'important. Nous sommes une minorité en Amérique du Nord et l'État a toujours été un levier important pour défendre nos droits collectifs, dont par exemple la langue. Alors, nous sommes républicains de cœur, alors que quand on sort du Québec et qu'on va au Canada anglais, on est un peu comme dans un autre pays. Et là, c'est la mentalité, donc, anglo-saxonne. Mais c'est une mentalité qui, de plus en plus, est présente au Québec, dans les milieux universitaires, dans les médias. Et nous avons donc à faire face à ça. Alors, l'opposition à la Charte des valeurs aussi, évidemment, il y a eu donc beaucoup de féministes multiculturalistes, il y a eu des fédéralistes, il y a eu des islamistes et il y a eu aussi ce qu'on appelle l'interreligieux, c'est-à-dire il y a eu une solidarité entre tous les cultes, les juifs, les catholiques et les musulmans pour torpiller ce projet de charte-là. Alors, moi qui avais parlé, qui avais dénoncé le financement des écoles privées confessionnelles, qui avait parlé, par exemple, du kasher et du halal, qui avait parlé de la question du voile, alors j'ai été traitée de radicale, de raciste, de xénophobe, d'antisémite. Moi aussi, j'ai fait la couverture du Times d'Israël, Al Jazeera. Bon, alors j'ai toutes les qualités, bref. Et donc, c'est un djihad juridique, finalement, qui s'est enclenché. Mais on a trouvé que c'était pas suffisant. Alors le gouvernement, le Parti québécois a perdu les élections. C'est un gouvernement fédéraliste au Québec là qui a pris le pouvoir, le Parti libéral du Québec, et ils ont présenté en juin 2015 un projet de loi, le projet de loi 59, qui était finalement un projet de loi qui permettait à quelqu'un qui avait la prétention de vouloir légiférer, empêcher les discours prétendument haineux. Mais dans le fond, c'est un projet de loi qui était là pour limiter la liberté d'expression, particulièrement celle où l'on critique les religions et particulièrement donc l'islam. Alors, dans ce projet de loi-là, si vous voulez, les éléments importants, quelqu'un pouvait faire une plainte, la plainte était anonyme et sans frais pour le plaignant. Alors déjà là, donc on facilitait l'accès à des poursuites abusives. On pouvait aussi, une fois qu'on enquêtait sur un site ou sur quelqu'un, il y avait interdit donc de continuer à diffuser publiquement. Et on avait même pensé à une liste des personnes qui seraient condamnées parce que l'intention c'était de les amener devant la justice et de leur coller des amendes, et une liste noire donc des personnes qui auraient été condamnées par le tribunal des droits de la personne. Il y a eu heureusement une mobilisation à bien des niveaux dans le milieu LGBT, même au niveau du barreau, les avocats, chez les des professeurs, surtout les journalistes, au niveau de la population, les militants laïcs, bref, beaucoup d'opposition à ce projet de loi-là.
Il faudrait conclure.
Alors, donc, rapidement, le projet de loi a été abandonné, mais on est revenu avec des motions. On a fait voter par la classe politique, les élus, une motion sur l'islamophobie. On a déposé des pétitions, fait voter des motions. On le fait au provincial, on le fait au fédéral. Ces motions-là ont été votées. Et ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une reconnaissance de la classe politique de l'islamophobie et que ce soit reconnu comme étant quelque chose de systémique, c'est-à-dire un racisme profond dans la société à la fois québécoise et canadienne, et donc que les politiciens, la classe politique, adoptent des orientations au niveau social, au niveau politique, etc., pour essayer de limiter, de contrer en quelque sorte l'islamophobie. On a même eu à l'automne dernier, puisqu'on a reçu beaucoup de réfugiés syriens, le gouvernement fédéral qui a distribué dans les écoles publiques des guides contre l'islamophobie pour éduquer en quelque sorte les jeunes Canadiens. Alors, grosso modo, ça va mal. C'est très difficile. Et ce qu'on réalise, c'est qu'aujourd'hui, non seulement la laïcité régresse, chez nous aussi, mais que pour défendre la laïcité, il y a maintenant un préalable, et c'est celui de défendre la liberté d'expression. Et je terminerai rapidement en disant que je considère qu'à l'heure actuelle, la principale limite à la liberté d'expression, c'est l'islamisme. Merci.
Merci, Louise Mailloux. Nous avons quelques minutes de débat, donc on ne va pas pouvoir s'autoriser plus de 10 minutes de débat, donc ça veut dire qu'on prend deux questions. Laure, est-ce que quelqu'un peut apporter un micro à Laure, s'il vous plaît, au deuxième rang?
Oui, dans l'orcaille Libre Marianne. Dans le panthéon islamiste, où le jeu de Pokémon, parfois, il y a des personnages, et il y a un nouveau personnage qui est assez nouveau, et qui me semble tout à fait important de cibler, et on peut peut-être faire des choses là-dessus. C'est une espèce de monstre mi-animal, mi-goule, mi-colombe, mi-corbeau, j'ai nommé la féministe islamique. Et ce personnage est assez récent, c'est-à-dire que les islamistes ont compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer de retourner, comme ils savent si bien le faire, de retourner sémantiquement, de retourner idéologiquement l'accusateur en victime, etc. Et par conséquent, je pense que nous pouvons faire quelque chose parce que ce personnage plaît énormément aux médias, bien évidemment. Les médias sont très paresseux, ils ont des fiches, ils ont des listes. Et bien évidemment qu'avec leur réseau, les islamistes donnent ces listes. Et c'est ainsi que nous pouvons voir sur les chaînes publiques, de plus en plus, des féministes dites islamiques, islamistes, islamiques, peu importe, à qui on ne pose jamais d'ailleurs les questions sur leur féminisme. On leur pose les questions sur leur stigmatisation en tant que musulmanes, on leur pose les questions en tant que victimes, jamais on ne leur pose les questions. Étiez-vous, par exemple, pour soutenir les femmes polonaises, pour soutenir, etc., etc. Alors, je pense qu'on pourrait, et je voudrais m'adresser tout à la fois aux médias et aux politiques, car même dans des commissions, notamment des commissions des droits des femmes, que ce soit au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou que ce soit au Sénat, je trouve qu'il est tout à fait dommage qu'on convoque des féministes islamiques, alors pas les plus hystériques. Ouria Boutelja, non, ça ne passe plus. Rokhaya Diallo, elle est trop connue. Donc il y en a une en particulier, Anan Karimi, qui est absolument invitée partout et qui est légitimée à parler dans des commissions des droits des femmes, etc. Et n'est jamais contestée sur son féminisme. Alors je pense quand même qu'on pourrait peut-être faire savoir et aux médias qu'il y a des femmes, nous les avons entendues, qu'il y a des femmes musulmanes qui savent parler, qui sont extrêmement progressistes et qu'on pourrait peut-être changer, non pas le logiciel, mais les invités.
Donc, merci à toutes vos pour toutes vos interventions. C'est pour dire que, bon, vous savez tous, c'est un phénomène mondial. Moi, je viens de l'Allemagne, même discours débile, même maladie mentale. J'ai l'impression qu'il y a comme une nouvelle religion qui est donc cette confession. Ça n'a rien à voir avec l'islam, le multiculturalisme, relativisme, c'est quelque chose qui est comme une prière qui est répétée dans les médias partout et c'est comme qui annule la logique. Il n'y a plus de discours de logique et qu'il y a comme une tout est infesté, les médias, et je ne sais pas comment, quand on discute avec des gens comme ça, bon, vous le faites tous les jours, moi je le fais aussi dans le quotidien, c'est comme on se fait attaquer. Et c'est comme parler à un mur. Donc, je ne sais pas comment... comment faire
et comment
il y avait
pourrait...
le... oui, oui. Alors, il y avait le mot diffamation. Donc, je ne sais pas s'il est possible si ça, de retorquer. Donc, il y a des gens comme des indigènes et d'autres bon, qui font des procès pour diffamation. S'il n'est pas possible de faire vraiment une vague de procès contre tous ces... ces gens qui psychologisent, qui font la diffamation, le psychologisme, etc.
Alors, on a compris le sens de votre question. Donc, Pierre Gauthier va vous répondre et puis peut-être d'autres personnes à la tribune.
Je vais me permettre de dire quelque chose, c'est que la liberté d'expression ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Donc, servons-nous-en et servons-nous-en au maximum. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, au fond, nous tous ici, toutes et tous, nous sommes... Nous avons été baignés dans la culture dite française, c'est-à-dire la rhétorique, l'art de la parole, la construction de la pensée. Et je pense que nous devons, nous, réhabiliter ce raisonnement rhétorique, argumenté, pour contrer ces raisonnements qui sont, au fond, des affirmations dogmatiques de vérité qui n'en sont pas, tout simplement. Alors, on ne peut pas contrer une croyance... parce que chacun a le droit de croire ce qu'il entend ou ce qu'il veut, mais on peut argumenter et dire non, le droit, c'est la démocratie, tandis que la croyance, bah, c'est l'arbitraire. Et nous devons réhabiliter le droit et la démocratie, puisque je suis dans un pays où on a le peuple, a la possibilité par le référendum ou par l'initiative populaire d'intervenir directement dans la loi. Nous avons le droit. Mais, et c'est là où le populisme est extrêmement dangereux, c'est qu'il est très facile aujourd'hui, avec les moyens de communication qui pénètrent chez tout le monde, hein, je veux dire, moi, je m'informe par Internet, comme tout le monde, je regarde moins la télévision, je lis moins la presse, etc., il est extrêmement facile d'instiller et de distiller une sorte d'idéologie dogmatique complètement hystérique à des esprits qui ne sont justement pas formés. Donc, l'éducation, c'est la première chose. Et puis, soyons honnêtes, soyons clairs. Nous avons, depuis une trentaine d'années, laissé les quartiers populaires à leur triste sort. Et ça, tous les gouvernements français, suisses, belges, canadiens et les autres ont une responsabilité gigantesque en admettant, et ça c'est politique, je le regrette, l'ultralibéralisme, c'est-à-dire la commercialisation de toutes les actes, de toutes les actions des êtres humains, alors qu'en fait, nous sommes des républicains, où nous estimons qu'il y a un espace de la République qui doit être préservé et défendu, et cet espace préservé et défendu, il a été laissé à l'abandon, et ça, nous avons une responsabilité là-dessus très très importante.
Juste une réponse.
Non, s'il vous plaît, pas de débat de deux, parce que sinon d'abord on ne vous entend pas. On ne vous entend pas et toute la salle n'en profite pas. Donc je crains qu'on doive s'arrêter ici, à moins que quelqu'un d'autre à la tribune veuille répondre autre chose. Deux mots, oui, bien sûr.
Il faut assumer une réalité, la regarder en face. Elle est amère, mais c'est une vérité. Nous, démocrates de tout pays, avons perdu une première bataille culturelle face à l'islam politique, qui arrive aujourd'hui, alors qu'il s'agit d'une idéologie totalitaire, à s'imposer comme un référentiel islamique. En l'occurrence, je me rappelle, quand j'avais quitté l'Algérie à la fin des années 90, mes confrères algériens, démocrates ou pas d'ailleurs, quelle que soit leur, mais en tout cas opposés au projet islamiste, qu'ils soient arabophones ou francophones, qualifier le voile, par exemple, puisqu'il suscite à juste titre un intérêt évident, le qualifier de voile islamiste. Lorsque je suis arrivé en France, toute l'intelligentsia française et européenne, du pouvoir politique au pouvoir médiatique, au monde universitaire, avait d'autorité, je dis, décidé qu'il faille l'appeler voile islamique. Alors qu'il ne s'agit pas d'un voile islamique, puisque le débat, y compris théologique, n'est pas tranché. Donc ça, c'est une première bataille que les démocrates ont perdue. La deuxième chose, c'est que, évidemment, et vous aviez raison de le souligner, madame, c'est que les islamistes ont l'intelligence que nous n'avons pas ou que nous n'avons plus. Et ont cette détermination que nous n'avons pas ou que nous n'avons plus, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, et ont ce courage que nous n'avons pas ou que nous n'avons plus pour la plupart d'entre nous. C'est qu'eux savent qu'ils sont en train de se battre pour leurs valeurs. Nous sommes en train de nous battre contre quelque chose, pas pour nos valeurs. En l'occurrence, commençons par réaffirmer ce que nous voulons être dans des sociétés démocratiques, c'est-à-dire dans une société démocratique, je l'ai effleuré tout à l'heure. Nous sommes des démocrates et la démocratie, si certains l'ont peut-être oublié ou l'ignorent, on ne peut pas tous connaître tout sur tout, c'est pas péjoratif, mais si certains l'ignorent, je le répète, la démocratie est un corpus idéologique et un projet de société qui ne se limite pas à des processus électoraux, loin s'en faut. C'est d'abord un style de vie, un mode de vie où sont consacrées toutes les libertés, en l'occurrence, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de croire, ne pas croire, la liberté de croire, changer de religion, etc. etc. Donc, et ces libertés ne doivent pas se confondre avec ce qui est de nature à être ennemi de la liberté. En l'occurrence, la liberté a toujours, dans le cadre de l'état de droit, défini ce que devait être la liberté. En l'occurrence, on peut tout dire, on peut s'exprimer, etc. Mais la liberté d'injurier, de développer de la haine en direction de l'autre n'est pas l'expression d'une liberté. Donc je dis, et je le répète, finalement, avec quoi j'avais commencé, commençons d'abord, au lieu de pérorer à droite et à gauche, nous tous comme nous sommes, de nous former sur le sujet qui nous préoccupe. Parce que pendant que certains se suffisent de quelques posts sur Internet, sur Facebook, croyant que c'est là qu'est uniquement l'alpha et l'oméga de l'engagement idéologique et politique dans une société, commençant d'abord par apprendre ce qui nous préoccupe à juste titre et à comprendre qu'il faille dépasser un certain nombre de clivages pour nous réunir autour d'un consensus pour exprimer des valeurs et les à la fois réincarner et les réaffirmer, mais également dans des principes. C'est-à-dire que si on choisit de répondre à l'islamisme par à notre extrémisme, on a perdu. Si on répond à l'extrémisme islamiste ou musulman par un autre extrémisme xénophobe, nous avons perdu. Si nous, parce que l'islam politique est une violence et qu'il arrive à nous faire piétiner nos propres valeurs, c'est que nous avons perdu. Si en revanche, nous arrivons à puiser notre réponse dans un corpus démocratique, républicain et fortement laïque, féministe et progressiste, nous aurons gagné. Donc si nous n'arrivons pas à comprendre ces choses fondamentales, parce que je vois, oui, j'entends beaucoup de gens, encore une fois, répondre aux sirènes du populisme et de l'à-peu-prisme et, je dirais, du tout et du n'importe quoi, de l'emporte-pièce, croyant que ça y est, c'est de grands Jean Moulin en devenir. Enfin, excusez-moi, la bataille est encore très longue et je vous donne, si je suis encore là, rendez-vous pour l'année prochaine, l'année suivante et même les 5 à 10 années après. C'est qu'il faut aujourd'hui avoir la conviction que c'est le combat d'une génération. C'est un combat qui est de longue haleine et qui ne se suffit pas avec toute la sympathie qu'il y a, évidemment, et la nécessité d'organiser des rencontres comme celle-ci. Parce qu'il faut remobiliser, il faut, je dirais, faire et de la pédagogie et réaffirmer un certain nombre de valeurs essentielles. Mais on ne peut pas, en sortant de là, oublier tout ça et dire « Bon, ça y est, on a fait notre devoir, on est engagé, on est des gens bien militants et ça suffit. » Non, il faut que lorsque demain des appels sont lancés parce qu'il faudra aller manifester ou aller être présent sur le terrain et non pas virtuellement uniquement, il faudra aussi être là. Voilà, merci.
Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Il faut malheureusement, je suis désolée, mais là maintenant, il faut laisser la parole à Jemila qui doit conclure avant 18h.
Le temps qu'elle arrive, je voudrais juste dire que le féminisme, il ne faut jamais l'oublier, il n'y a pas dit féminisme. Le féminisme est ancré dans les valeurs universelles et c'est dans ce cadre-là que le débat doit avoir lieu et pas en dehors de ce cadre-là.
Alors, merci de me donner cette tâche difficile. De conclure donc les travaux de cette rencontre-là d'aujourd'hui, qui a été rendue possible par Françoise Laborde, il faut le dire. C'est grâce à elle que nous sommes là aujourd'hui. Merci Françoise de nous accueillir. Parce que c'est cela aussi la politique, c'est écouter. Échanger, être patient, travailler. Bref, la démocratie, ce n'est pas fait pour des paresseux. C'est fait pour des gens qui ont une conscience, qui ont une combativité, qui ont une vision du monde. Merci à toi, Martine, d'avoir accepté d'organiser tout ce barda dans des conditions un peu olé-olé. Et merci à Florence d'avoir relayé et d'avoir travaillé à l'organisation de cette rencontre. Je remercierai aussi l'ensemble des panélistes, et ils sont très nombreux, qui sont venus de Belgique, qui sont venus de Suisse, qui sont venus du Québec, pour nous dire leur réalité et pour partager avec nous leur vécu. Je remercie aussi l'ensemble des panélistes du premier panel qui sont venus nous témoigner de leurs expériences et partager avec nous leurs analyses. Ce que sont venues nous dire toutes ces personnes qui viennent d'horizons divers, c'est qu'elles sont totalement engagées dans la défense d'une posture universaliste du monde. Ces personnes-là sont debout, ces personnes-là sont des résistantes et des résistants. Ces personnes qui sont résolument engagées sont aussi exposées parce que leur militance, leurs paroles, leurs écrits, leurs films, bref, l'ensemble de leur création, fatalement les expose à des ennemis. à des ennemis qui sont différents. Mais disons qu'il y a aujourd'hui un ennemi clairement identifiable, qui est l'islam politique, et qui veut verrouiller tout le champ des possibles, qui veut d'abord nous dire que dans ses stratégies, il n'y a rien de politique, qu'il veut nous faire croire que tout est le fruit du hasard, qu'il nous dit qu'il n'y a pas de lien à faire entre l'Iran et l'Algérie, entre l'Algérie et l'Égypte, entre l'Égypte et la Tunisie, et qu'il n'y a aucun lien à faire entre le monde musulman et l'Europe et l'Amérique du Nord de façon générale. Or, non, nous le savons, l'islam politique est une internationale qui est née, voilà longtemps, en Égypte et qui a des stratégies transnationales. L'islam politique ne connaît pas de frontières, ne reconnaît pas de nationalité. Il se revendique d'une Oumma, il se revendique d'une stratégie claire qui est déterminée, qui, aujourd'hui, fait de l'entrisme. Et en face, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monde politique, une sphère politique délétère qui est trop souvent dans le clientélisme et dans le communautarisme. Il y a une sphère médiatique qui ne fait pas son boulot, qui est trop approximative lorsqu'il est à chaque fois question de traiter de ces sujets-là, qui a délaissé nos amis de Charlie Hebdo, qui les ont même montrés du doigt parce qu'ils ont refusé de défendre la liberté d'expression. Il y a aussi le fait que nous peinons, malheureusement, à définir un véritable projet alternatif. Donc nous avons aussi une responsabilité de le faire. Alors, comment peut-on gagner? Comment peut-on gagner? Parce qu'il n'est pas question, ici, aujourd'hui, de dire qu'ils ont vaincu. Parce que tant et aussi longtemps que nous continuerons de vivre, parce que vous le savez, mes chers amis, c'est un privilège que nous avons que d'être en vie, parce que d'autres ont été assassinés pour leurs idées. Nous avons aujourd'hui l'obligation, la responsabilité de rajeunir nos effectifs. Nous avons la responsabilité de construire des ponts entre les uns et les autres. Nous avons la responsabilité de créer des réseaux comme eux savent le faire. Et nous avons aussi cette responsabilité de libérer la parole des femmes et des hommes de culture ou de foi musulmane qui sont très nombreux, dont on a confisqué la parole et qui sont de véritables républicains. Mais malheureusement, nous ne les entendons pas assez. Nous ne les écoutons pas assez. Trop longtemps, leurs expériences ont été tues. Et aujourd'hui, il est temps de leur redonner la parole. Je suis convaincue que si nous nous mettons à travailler tous ensemble, au-delà, évidemment, de nos clivages politiques, si nous retrouvons cette boussole qui est l'universalisme des Lumières, parce que ce qui m'a frappée dans l'ensemble des panels, cette reconnaissance, cette posture philosophique qui est celle des Lumières, c'est elle qui nous a guidés les uns et les autres dans notre cheminement et dans notre militance. Alors voilà, en quelques mots, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je voudrais qu'on ait une pensée pour ceux qui sont partis. Et je voudrais qu'on sorte ici de cette salle avec la détermination qu'il faut pour défendre la République. La France est un grand pays. Ce n'est pas un hasard si la France est ciblée. Ce n'est pas un hasard si la France est malmenée. C'est un privilège que vous avez d'être français. Parce que contrairement à ceux qui vivent dans d'autres pays, vous l'avez compris, c'est hyper compliqué de défendre la laïcité. Vous avez au moins cette chance d'avoir la laïcité inscrite dans votre constitution. Et ça, c'est une véritable chance. Je ne vous dis pas que tout est facile. Évidemment que c'est difficile. Mais je suis convaincue que nous pouvons gagner cette bataille. Il faut le faire. Il faut le faire pour ceux qui sont partis. Il faut le faire pour tout l'héritage que nous avons reçu des anciens. Mais il faut le faire aussi et surtout pour nos enfants. Merci.
ça va ? En forme ?